qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
Europe 1 soir.
19h, 21h.
Pierre de Villeneuve.
Mais oui, jusqu'à 21h les amis. Nous sommes là jusqu'à 21h et à 20h30 l'interview politique. Ce sera avec Louis Alliot, maire RN de Perpignan. Ça sera après votre journal. Bonsoir Maëlle Hassani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 20h sur Europe 1. Très bonne soirée en notre compagnie. Avec au programme de votre journal les traditionnels défilés du 1er mai marqués par des débordements et un incident marquant.
Raphaël Glucksmann n'a pas pu rejoindre le cortège à Saint-Étienne. Des manifestants l'ont invectivé. Les insultes anti-sionistes ont fusé. La tête de liste PS aux prochaines élections européennes accuse notamment des militants de la France insoumise. Les attaques au couteau se multiplient en France. Mais qui en sont les auteurs? Europe 1 vous révèle le profil type des meurtriers. Dans ce journal également, la colère de la maire de Samara face aux conclusions de l'enquête administrative qui rejette toute responsabilité du personnel du collège dans l'agression de sa fille à Montpellier. Et puis le Paris Saint-Germain est-il favori ce soir?
Oui.
En demi-finale aller de la Ligue des Champions
non,
face à Dortmund. Eh bien écoutez, vous avez l'avis de Pierre de Villeneuve, on aura aussi l'avis d'une légende du football, Alain Giresse.
La tendance météo, Marlène Durand.
N'aurait pas la mienne en tout cas. En revanche, alerte orange en cours dans 19 départements, 14 pour des orages virulents circulant de Lyon et du sud Champagne vers l'Île-de-France. C'est la Picardie, et puis 5 pour de fortes pluies. L'Eure, la Seine-Maritime, l'Orne, le Calvados et l'Eure-et-Loire. Phénomène qui a déjà commencé, qui devrait prendre fin vers 3h du matin pour la plupart des départements. Et puis demain, les pluies auront bien du mal à s'évacuer. Elles occuperont une bonne moitié est du pays.
À tout à l'heure pour le détail, chère Marlène. Moins de monde que l'année dernière dans les rues en ce 1er mai.
200 000 manifestants partout en France, selon la CGT, 121 000 selon les autorités. Plus de 200 défilés organisés en cette journée internationale des travailleurs. Les revendications étaient multiples. Les salaires, l'Europe, la paix et dans bon nombre de cortèges, les slogans pro-Gaza et les drapeaux palestiniens étaient omniprésents. Et c'est désormais une triste habitude. Il y a eu des débordements dans plusieurs villes, Jean-Baptiste Marty.
Des tirs de flashball pour répondre aux attaques de mortiers. Des scènes de chaos dans les rues de Nantes, mais aussi à Lyon, où des agences bancaires ont été attaquées et des magasins pillés. Partout en France, des violences commises par des centaines de Black Blocs, ces éléments radicaux encagoulés et vêtus de noir. Des affrontements également dans les rues de la capitale, où 12 policiers ont été blessés, dont 7 après avoir été visés par une bombe agricole. De nombreux affrontements donc, malgré la forte présence policière. Et pour cause, 5000 forces de l'ordre étaient déployées dans les rues de Paris. Du côté des manifestants, la préfecture annonce 45 interpellations à 20h. Un 1er mai sous le signe des violences donc, et une participation en forte baisse. Ils étaient 120 000 à battre le pavé parisien l'année dernière. C'est 10 fois moins cette année.
Jean-Baptiste Marty, spécialiste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Et dans les rues de Saint-Étienne, Raphaël Glucksmann n'a pas pu rejoindre le cortège. Des manifestants ont invectivé la tête de liste PS aux prochaines élections européennes avant de lui jeter de la peinture. Des insultes anti-sionistes ont été proférées à son encontre. Pour le socialiste, pas de doute, parmi ses agresseurs, il y avait des militants de la France insoumise.
On va voir qui c'est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de Révolution Permanente et de la France Insoumise. Donc voilà, c'est leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Ils ont décidé de faire une campagne qui électrisait tout. Ils ont décidé que, alors qu'on a une extrême droite à 40%, 80% de leurs tweets à l'AFI sont consacrés à Raphaël Glucksmann et à la liste socialiste Place Publique. Donc à un moment, ils ont choisi leur adversaire. Nous, notre adversaire, ça reste Jordan Bardella. Nous, notre adversaire, ça reste la montée de l'extrême droite.
Raphaël Glucksmann, la tête de liste PS Place Publique aux prochaines élections européennes. Au micro Europe 1 d'Alexis de la Fontaine.
Raphaël Glucksmann qui sera notre invité le 6 mai prochain, donc lundi prochain à 20h30.
Et le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, réfute toute implication de ses militants dans cet incident et pointe du doigt les jeunes communistes. Le Premier ministre Gabriel Attal condamne ces violences. Autre tête de liste aux prochaines élections, Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Il était en meeting à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, ville dirigée par un maire RN, Louis Alliot. Il sera d'ailleurs votre invité dans quelques minutes, dans Europe 1 Soir, Pierre. Et même s'il est largement en tête dans les sondages, Jordan Bardella souligne que rien n'est gagné. Nous avons des ennemis redoutables, la dispersion et l'abstention, a déclaré le président du RN devant 2000 sympathisants réunis.
Crépol, Bordeaux, plus récemment Châteauroux, autant de villes endeuillées après des attaques au couteau mortel.
Un phénomène en augmentation que les autorités surveillent de près. William Molinier, vous avez consulté pour Europe 1 une récente étude de la police judiciaire qui précise les caractéristiques des homicides commis par arme blanche.
En France, l'âge moyen des victimes d'homicides par arme blanche est de 38 ans, un quart à moins de 26 ans. L'accélération de ce phénomène, qui se vérifie aussi au niveau européen, touche surtout les jeunes. Quant aux auteurs, ils sont majoritairement des hommes, âge moyen 33 ans, déjà connus des fichiers de police dans 63% des cas. Par ailleurs, selon cette étude de la police judiciaire qu'Europe 1 s'est procurée, 26% des auteurs d'homicides au couteau sont des étrangers, 53% sont sans emploi. Dans 3 cas sur 10, ils ont consommé de l'alcool au moment des faits. Les enquêteurs notent cependant que le taux de résolution de ce type d'homicide est très élevé. 9 meurtres sur 10 ne restent pas impunis. C'est un de plus que pour les meurtres par arme à feu. Ce qui s'explique selon les policiers par la proximité entre l'auteur et la victime lors du passage à l'acte. La présence d'ADN permet ainsi de favoriser l'identification du tueur.
William Molinier, et une nouvelle attaque au couteau a eu lieu la nuit dernière à Nice. Un touriste anglais de 30 ans est blessé à la cuisse. Un homme en état d'ébriété est venu l'importuner. La situation a alors dégénéré et l'agresseur a fini par poignarder la victime. Le touriste a été transporté à l'hôpital, mais il est désormais hors de danger.
Les conclusions de l'enquête administrative sur l'agression de Samara ne plaisent pas du tout à la mère de la collégienne.
Cette adolescente de 13 ans, rouée de coups à la sortie de son collège à Montpellier début avril, ses proches assurent qu'elle était victime de harcèlement scolaire avant l'agression et dénoncent des manquements dans la protection de la jeune fille. Pourtant, Louis Salé, le rapport rendu hier écarte toute responsabilité du personnel de l'établissement dans cet incident.
Oui, ce rapport indique que les équipes du collège ont fait ce qu'il fallait faire en suivant de près la situation de Samara plusieurs mois avant l'agression, puisqu'elle avait été entendue par la vie scolaire sur ses relations conflictuelles avec des camarades, mais aucun phénomène de harcèlement n'avait été identifié. Les inspecteurs rappellent aussi que le professeur principal de l'élève avait averti sa mère le jour de l'agression pour venir la chercher à la sortie du collège, car il avait vu un groupe de jeunes qui attendaient Samara. Mais Assiba Rajou, le maire de l'adolescente, n'a pas pu se rendre devant l'établissement et dit avoir appelé le collège pour garder sa fille, ce que conteste le rapport faute de preuves. Elle était interrogée par Pascal Pro ce matin sur CNews et Europe 1.
On en conclut que j'ai menti, que ma fille elle n'a jamais été harcelée, que voilà, en fait c'est ça les conclusions. Donc voilà, moi j'attends beaucoup de l'enquête judiciaire pour éclaircir tout ça. Je pensais de base que c'était parce que on m'a demandé mon relevé téléphonique. On aurait pu faire de même au niveau du collège.
Pour les inspecteurs de l'Éducation nationale, le coupable dans cette affaire, c'est surtout le rôle délétère des réseaux sociaux. Mais selon l'avocat de la mère de l'adolescente, Maître Galix, qui s'est exprimé hier, dire qu'il n'y a aucune défaillance de la part du collège, pour la maman de Samara, c'est insupportable.
Louis Salé, spécialiste éducation à la rédaction d'Europe 1. Le ministère de l'Éducation nationale fait volte-face sur la question des heures supplémentaires des professeurs. Une partie d'entre elles devait ne pas être payée cette année. Mesure annoncée au chef d'établissement lundi, dans un contexte de coupes budgétaires. Mais face au tollé, le gouvernement annonce finalement au syndicat qu'il revient sur sa décision. À l'étranger, le Hamas réclame toujours le retrait d'Israël de la bande de Gaza et un cessez-le-feu permanent pour conclure un accord de trêve. Une proposition a été transmise au mouvement terroriste pour un arrêt des combats de 40 jours assorti de la libération de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. Selon un dirigeant du Hamas, une réponse sera donnée dans très peu de temps. L'État hébreu fixe la limite à ce soir.
Et puis des centaines de supporters du PSG sont à Dortmund. On les entend. Ils sont là pour soutenir leur équipe ce soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Oui, et ils se sont fait entendre tout au long de l'après-midi dans la ville allemande. Et il faut dire que face au mur jaune de Dortmund, il va falloir donner de la voix en tribune. Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l'histoire. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Il y a très peu de matchs aussi importants dans la carrière d'un joueur. Alors les Parisiens sont-ils favoris ce soir? La réponse du consultant football d'Europe 1, Alain Giresse.
Dans l'absolu, allez, on va dire oui, qui sont favoris, notamment déjà par rapport à la... des matchs contre le Borussia Dortmund en phase de poule par rapport au potentiel qu'ils sont capables de démontrer. On l'a vu contre Barcelone. Donc voilà, maintenant, attendez, il faut le traduire sur le terrain, c'est autre chose. Et ce premier match, mais évidemment, c'est une demi-finale. Hein, c'est la porte ouverte pour la finale. Donc c'est une demi-finale, il y a une mobilisation, il y a des atouts de côté et de l'autre. Voilà, et ça va être celui qui saura mieux gérer ce match, qui pourra l'emporter. Et je dirais, peut-être pour Paris, essayer d'avancer, de prendre un petit avantage pour le match retour.
Alain Giresse, interrogé pour Europe 1 par Cyril de la Morinerie.
Merci mon cher Maël Hassani. Je tente de retrouver les lancements de la météo de Marlène Duret, mais je vais y arriver parce que regardez, c'est en fin de page. Voilà, c'est ici. Mais
savez,
ce sont les joies du direct.
Le tonnerre gronde.
Mais
Pierre.
Oui, les orages et les fortes pluies cette nuit.
Absolument, des orages se produisent en ce moment dans le nord de la Bourgogne et se dirigent vers le nord du pays. 19 départements font l'objet d'une alerte orange, alors 14 pour les orages. Lyon et l'Aube jusqu'à 23h. L'ensemble des départements franciliens jusqu'à 2h du matin. La Marne, l'Aisne, l'Oise et la Somme en alerte orange également jusqu'à 3h cette nuit. Et puis ces orages assez virulents pourraient quand même donner beaucoup de pluie, de la grêle et puis forcément de bonnes bourrasques sous les orages les plus forts, même si ce n'est pas le caractère dominant. On a aussi 5 départements en alerte orange pluie-inondation. La Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne, le Calvados et l'Eure-et-Loire. Des cumuls d'eau qui s'annoncent hétérogènes jusqu'à 60 mm localement en 24h. Risque qui semble plus marqué sur l'est de la Normandie. Voilà. Et puis concernant le Calvados, il faut même que je précise, on a un risque de crue sur le bassin de la Touque, département placé en vigilance orange pour les crues. L'évolution pour demain, très rapidement, encore perturbée avec du ciel gris, de la pluie aussi sur une grande moitié est et on englobe la Normandie, l'Île-de-France, l'Auvergne, le Languedoc. Et puis en allant vers l'ouest, de moins en moins de pluie et des éclaircies.
Température, pas de saison.
Oui, il va faire frais partout. Température qui devrait remonter ce week-end à partir de dimanche. En attendant, d'ici là, on garde un petit foulard autour du cou. J'ai peut-être un biais cognitif, la voix c'est important pour moi. Mais bon, il va faire quand même frais. Les maximales entre...
Elle adore parler de soi, Marlène Duret, c'est pour ça.
De temps en temps, à dose homéopathique. Entre 10 et 13 degrés en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le reste du pays, allez, entre 16 et 18 degrés, ça peut monter quand même jusqu'à 19 en Alsace. Voilà, on va perdre beaucoup demain.
Vous voyez, Catherine Ney vous surveille, attention.
C'est vrai, vous me surveillez.
Mais oui. Après, elle met des notes. Merci Marlène Duret. Dans un instant, le 1er mai, était-il un vrai 1er mai? On en parle avec justement Catherine Ney, Olivier d'Artigol. Et à 20h30, ce sera Louis Alliot qui sera notre invité politique. À tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. On se retrouve demain de 15h à 16h dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Historiquement Vôtre.
Je vous raconte deux filles, deux sœurs qui ont construit leur vie dans l'ombre d'un géant de la politique. Président du Conseil avant et après la Première Guerre mondiale et partisan farouche d'une victoire totale sur l'Empire allemand. La véritable histoire de Madeleine et Thérèse Clémenceau, les filles du Père la Victoire.
Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
C'est demain de 15h à 16h sur Europe 1.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-Er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Europe 1. Le journal permanent.
À 20h13 sur Europe 1, 13 policiers et gendarmes blessés, 45 personnes interpellées à Paris. Le traditionnel défilé du 1er mai émaillé d'incidents dans la capitale. 121 000 manifestants sont descendus dans la rue selon le ministère de l'Intérieur. Personne ne nous fera baisser la tête. Ce sont les mots de Raphaël Glucksmann, empêché de rejoindre le cortège à Saint-Étienne aujourd'hui, de la peinture jetée sur lui. Et puis Dortmund PSG, c'est le choc ce soir en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h.
Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.
Et on continue la discussion politique avant de rejoindre Louis Alliot tout à l'heure à Perpignan avec Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Pierre.
Éditorialiste politique.
Bonsoir à tous.
À Europe 1, bonsoir Olivier d'Artigol.
Bonsoir Pierre, bonsoir Catherine.
Chroniqueur politique à Europe 1, à CNews. Je voudrais qu'on écoute d'abord deux personnes. Une, j'allais dire, traditionnelle et une moins traditionnelle du 1er mai. Et on va, si vous le voulez bien, commencer par la numéro 1 de la CGT, Sophie Binet.
Quel est le point commun entre Vladimir Poutine de Benyamin Netanyahou, ce sont deux dirigeants d'extrême droite qui assassinent tous les deux des milliers de civils. Et donc c'est pour ça que nous sommes rassemblés ici aussi, pour dire que l'extrême droite est le pire ennemi des travailleurs et des travailleuses.
Voilà, donc Sophie Binet qui parle de Benyamin Netanyahou comme un personnage d'extrême droite, et l'extrême droite est le pire ennemi des travailleurs. Et puis un autre sonore, celui de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui.
L'abjecte guerre qui a lieu aujourd'hui à Gaza, qui en réalité n'est pas une guerre, mais un génocide, qui est le meurtre de masse d'une population. Honte à ceux qui regardent ailleurs. Les criminels sont ceux qui jettent les bombes, ceux qui tirent les snipers, ceux qui persécutent, ceux qui font mourir de faim, de soif, dans le noir, les malheureuses et les malheureux qui sont là par milliers et ne savent que faire. Nous voulons la paix en Méditerranée et la paix avec un cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu à Gaza, cessez-le-feu.
Alors, la question du Proche-Orient est très importante. La guerre qu'il y a depuis le 7 octobre, depuis le massacre et les pogroms du 7 octobre, elle est terrible, on le sait. Mais pardonnez-moi, Catherine Ney, on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon, quel rapport avec le 1er mai ?
Ben aucun. Mais ça prouve aussi qu'il n'y a plus de 1er mai.
Oui.
Vous voyez, c'était la fête du travail. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les premières banderoles qui étaient agitées par, je ne sais pas, par des gens d'extrême gauche, qui disaient « Soyons en grève jusqu'à la retraite ». Donc, ce qui prouve que pour le travail, vous voyez, on en est loin. Et il faut bien dire qu'à chaque fois qu'il y a eu, que les syndicats ont profité de l'unité, quand ils se sont mis d'accord, c'était toujours pour être contre et contre les retraites. Les plus grandes manifs, les plus grands défilés du 1er mai, ça a été ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui les rassemble ? Pas grand-chose. Et en plus, il y a quelque chose, vous voyez, il y avait avant les leaders syndicaux qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, mais il y avait Martinez, il y avait Chérec, il y a eu Laurent Berger, il y avait... Bon.
Il y avait Krasucki,
il y avait Bernard Thibault, tout ça, bon, voilà. Et donc, et ils avaient, avec le pouvoir, ils étaient en fâcherie, en réconciliation, il y avait Sarkozy, les invités à l'Élysée, enfin, il y avait un théâtre de... Depuis, en plus, les Philippe Martinez et Laurent Berger sont partis en même temps, l'année dernière, bon, il y a deux nouvelles leaders, mais je pourrais pas dire, sûrement des femmes très bien, mais elles n'impriment pas. Elles n'impriment pas, et malgré...
On les voit moins dans les médias aussi.
Et si vous voulez, malgré tout, d'abord, s'il y a un malaise social, les salaires sont trop bas, mais on n'est pas dans crise sociale. Le chômage, je veux dire, c'est plutôt... Il y a des demandes, des offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Hein, on peut se demander pourquoi, enfin parce que les salaires, enfin voilà, mais c'est pas le chômage. Donc, qui sont les vedettes aujourd'hui, depuis, ça a commencé même en 2000, après 2015, mais c'est les Black Blocs. Ça a commencé surtout en 2018, là, la première manif où on croyait la préfecture avait dit il y en aura peut-être 300-400, ils sont arrivés à 1200.
Vous voulez dire, Catherine, d'une certaine manière qu'aujourd'hui, on cherche un sujet pour le 1er mai. Et que là, le sujet était tout trouvé, c'était le conflit.
Mais non, les Black Blocs en profitent, oui. Parce que ce qu'ils veulent,
ça, c'est une partie.
Mais enfin, ils sont. Je sais pas combien ils étaient aujourd'hui, mais en 2023, ils étaient très nombreux. Et en 2018, vous vous souvenez là devant le pont d'Austerlitz, on les avait vus tout cassés. Ils étaient 1200.
Ouais. Bon, Laurent c'est des gens Nunez qui cassent tout. Laurent Nunez dit aujourd'hui 600 éléments radicaux. Alors on ne sait pas si c'est que des Black Blocs, mais voilà.
Oui,
600.
Mais enfin voilà.
Et vous disiez 1200.
1200. Mais eux, ils viennent pour affronter la puissance publique, casser du flic et surtout montrer la. Voilà, pour dire que les policiers sont des tueurs, enfin voilà, qu'il y ait des blessés, alors que les blessés sont du côté des forces de l'ordre.
Olivier D'Artigol.
Moi, j'éprouve un sentiment de tristesse parce que le 1er mai, c'est la journée internationale du travail. Il y a bien, Catherine vient de le dire, il y a pas mal de temps maintenant qu'on ne peut plus aller d'une manière, j'ai presque envie de dire, bon enfant. Que ce soit les salariés du privé ou du public, avec, je vais prendre un imaginaire, avec les enfants sur les épaules, pour aller défiler.
Contre les retraites, les parents venaient avec des poussettes.
Oui, pour soutenir.
Alors que c'était les pauvres enfants qui paieraient les
leurs. Pour soutenir des revendications. Mais Catherine, ne me détournez pas. Je sais que vous êtes redoutable là-dessus, mais non, je veux dire sur mon idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'actualité insoumise, les polémiques écrasent tout. Et il y a quand même quelques sujets à évoquer. justement, sur le mouvement des retraites, il avait été question du travail, de sa nature, de son sens, de sa soutenabilité, de son évolution. Il y a, par exemple, un pan entier du salariat qui est aujourd'hui au SMIC. Il y a une smicardisation d'une part croissante du salariat, avec des trappes à bas salaire. Il y a la question de l'ubérisation, qui est une question passionnante. Ce sont des damnés de la Terre d'aujourd'hui, pour certains. Donc il y a quand même des sujets à évoquer. Les leaders syndicaux seraient mieux inspirés de traiter de cette actualité sociale, salariale, des statuts, que d'aller nourrir, j'ai envie de dire, d'autres sujets qu'on évoque en d'autres temps. Cette journée est détournée depuis trop de temps de son objet. Et moi, je trouve que c'est dommage, parce qu'on avait là la possibilité d'en parler, on n'a pas pu le faire.
Catherine.
Et d'ailleurs, tout fout le camp. D'ailleurs, tous les 1er mai, le Front National célébrait Jeanne d'Arc. Là, Jeanne d'Arc oubliée. Et qui a été célébrée Jeanne d'Arc? C'est Marion Maréchal, qui est allée dans les Vosges, à Domrémy, là où elle est née, pour rappeler... Voilà, mais dans son discours, Marine Le Pen a cité Jeanne d'Arc, mais on n'y va plus, quoi. Même ça, ça se perd, vous voyez, c'était un rituel.
Jean-Marie Le Pen avait un peu tué le match avec Jeanne au secours.
Jeanne au secours, oui, mais il y avait du théâtre. Et Jeanne était là, oui. Voilà.
Mais est-ce que les gens, aujourd'hui, ne recherchent plus le théâtre?
Ils recherchent mais ça, je dis ça pour rire.
Ouais, mais alors, Gabriel Attal, lui, il a fait un déplacement aujourd'hui à Beaugency, qui est une ville importante, puisque c'est une des villes où il y a eu une bataille avec Jeanne.
De la guerre de Cent Ans.
Et donc référence à Jeanne d'Arc. Et paraît-il, il n'y a pas eu une seule allusion à Jeanne d'Arc. Donc, on n'y comprend plus rien. Quoi.
C'est
donc,
aussi une foire, aussi, je crois, importante.
Oui, mais alors, vous voyez, il va soutenir Valérie Ayer pour les européennes.
Qui en a besoin.
En a besoin parce qu'elle stagne dans les sondages. Là, pour l'instant, c'est l'encéphalogramme plat. Et pourtant, on pourrait justement avoir...
Mais c'était subliminal, l'allusion. Voilà.
C'est tellement subliminal qu'on l'a pas vu. Ce déplacement de Gabriel Attal, Olivier d'Artigol...
Je l'ai vu face à des micros répondant à une foule de questions diverses et variées.
Comme le fait le président, d'ailleurs, quand on lui tend le micro.
C'est vrai. Et donc, on est passé d'un sujet à l'autre avec quelques éléments de langage. Je continue à croire que ce Premier ministre est un hyper-communicant, que cette hyper-communication peut donner l'illusion de l'action, mais que sur bien des sujets, ce qui a été le moment Attal, le moment Abaya, une décision, une mise en œuvre, il a du mal quand même à le traduire depuis son arrivée à Matignon, avec quand même un président qui lui laisse peu d'espace.
C'est très difficile, là, oui. Il bouffe son oxygène, et puis dès qu'il fait quelque chose, un discours, il parle le lendemain, il y a tellement de paroles qu'on ne s'y retrouve plus, quoi. Trop de paroles, c'est comme trop d'impôts, tu l'impôt, trop de la parole, tu la parole. Donc, c'est difficile pour lui. Mais là, puisqu'on parle des européennes, ce qui va être intéressant, ce sont les débats. Je crois qu'il voulait, lui, Gabriel Attal, débattre avec Marine Le Pen, qui ne veut pas, parce que les débats, elle s'en méfie. Donc il va y avoir le débat avec Bardella, alors que lui ne voulait pas débattre avec un chef de parti.
Bardella, Valérie Ayer demain.
Ça sera intéressant déjà. Et je crois que là il joue gros dans ce. Je parle au Premier ministre parce que ou plutôt aussi Bardella parce que il est très bon et il est à 32%, mais dans le fond on ne l'a jamais vu en débat. On le voit en discours, c'est facile. Et c'est vrai que s'il faut parler d'Europe, c'est quelqu'un qui a travaillé pour le parti, en France, partout, mais qui n'était pas là... Qui n'était pas là à Strasbourg, à Bruxelles.
C'est son surnom, vous savez.
Oui,
c'est
d'accord.
Son surnom,
et vous voyez, et récemment, en plus, vous voyez, là, aujourd'hui, dans son discours, Marine Le Pen n'a pas parlé d'Ukraine, c'est comme si ça n'existait pas. Et Bardella, récemment, pour la dernière journée de session à Bruxelles, il y avait un amendement français qui demandait une enquête sur les ingérences chinoises et russes en Europe, et notamment parce que l'AFD, on sait, a un peu peut-être touché de l'argent, le parti auquel est affilié Bardella. Eh bien, Bardella n'a pas voté. Vous voyez, toutes les RN n'ont pas voté. C'est comme moi, j'avais remarqué que lorsque Mme Navalny est venue et qu'elle a été applaudie, lui, Bardella, n'a pas applaudi.
Il n'a pas applaudi.
Non.
Nous verrons sur ce casting Attal-Bardella. On se souvient que lors de la nomination de Gabriel Attal à Matignon, il avait été présenté comme l'arme anti-Bardella, avec comme feuille de route de réduire l'écart pour les élections européennes, avec la liste donc conduite par le leader du Rassemblement national. Aujourd'hui, l'écart est à 12-15 points. Emmanuel Macron ayant dit, attention, si l'écart n'est pas réduit à moins de 10 points, et si on ne réalise pas la remontada qui avait été effectuée en 2019, mais dans un tout autre contexte politique, je suis le seul à être protégé, faisant planer le doute sur le devenir politique des chapeaux à plumes de la majorité et des ministres actuels. Je pense que le château a dû, l'Élysée a dû demander à Attal d'y aller là.
Ah ben ça c'est
de,
sûr.
D'arrêter de faire du cabotage de sujets d'actualité à sujet d'actualité, mais d'aller dans la bataille. Parce que bien évidemment, le résultat le 9 juin au soir sera analysé politiquement, étant donné que c'est le seul rendez-vous électoral avant l'échéance présidentielle. Au moment de sa réélection en 2022, Emmanuel Macron s'était engagé sur une respiration démocratique à mi-mandat. On ne l'a pas eu, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu une initiative forte du président. Donc, beaucoup de personnes se disent, d'ailleurs, Bardella fait campagne là-dessus, il fait une campagne votée contre Emmanuel Macron.
Oui, oui. Donc, l'argument c'est ça.
Oui, il fait une campagne contre Emmanuel Macron. Donc si véritablement Attal est l'arme anti-Bardella, il faut qu'il y aille.
Oui, Catherine. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué aujourd'hui que c'est vrai, il est à 32, ce qui est formidable, Bardella. Et c'est vrai qu'il y a 6 ans, il avait 23 ans, il avait déjà fait 23%. Oui. Donc, il était sorti d'un chapeau et donc il n'a fait que prospérer. Il a créé c'est un vrai personnage, bon, qui est pour l'instant qui est une figure, mais on aimerait savoir aussi s'il a des choses à dire sur le fond. Bon, et moi, je trouve que l'essentiel de leur discours, à Marine Le Pen, moi, que j'ai trouvé assez faible, son discours, mais qui était dans l'incantation, mais on voit bien que c'est un score formidable, mais elle a dit attention à la dispersion. Et c'est la même chose pour Bardella. Il dit il faut voter tout de suite Bardella. Il ne faut pas commencer parce que c'est à un tour, au cas où les électeurs l'auraient oublié, et que évidemment, même si elle fait un score qui est faible, Marion Maréchal, enfin si elle s'imagine que Marion Maréchal va les rallier dès le premier tour, ça, faut pas rêver. Mais c'est vrai que peut-être que ça va grignoter, peut-être, et peut-être que les LR vont monter un peu plus, parce que pour moi, quand j'écoute les discours, le meilleur sur le fond, mais et de loin, c'est quand même Bellamy.
C'est Bellamy.
C'est le plus fort.
Ouais.
Oui, mais sans qu'il y ait un moment Bellamy dans cette campagne-là.
Mais il n'y a jamais eu. Et même en interview, ça s'appelle, et je parle sous le contrôle de Catherine, le charisme politique.
Eh bien, si vous voulez, c'est pas que je lui trouve plus de charisme tout d'un coup, mais j'ai écouté plusieurs interviews dans la longueur. D'abord, je me suis pas ennuyée, et je trouvais qu'il était très intéressant sur le fond, et je l'ai vu au Parlement européen s'adresser à Kohl pour avec le chancelier Scholz, pardon. Il a quand même du leadership, vous voyez.
Oui, il a du leadership intellectuel, il aborde sérieusement des sujets sérieux, il est crédité d'une activité au Parlement, mais sur des choses qu'il a fait progresser, mais que d'autres viennent lui chipper médiatiquement.
Oui, mais il est dans une famille politique aussi qui est, j'allais dire, déglinguée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez quand même Marion Maréchal que vous citiez qui dit qu'il y a de l'islamo-droitisme chez les LR, alors bon, ça c'est quelques cas peut-être, et on ne sait pas. Oui. D'un autre côté, on a un partenaire à la fois de la majorité, puisqu'on l'a vu au Parlement sur les textes fondamentaux, et puis ce partenaire est en contradiction avec cette majorité en disant « nous, on fera mieux que vous ». Donc, c'est compliqué d'avancer.
Nous sommes des observateurs attentifs et des passionnés de la chose politique et publique. Reste que l'écrasante majorité des électeurs potentiels ne sont pas encore entrés dans la campagne. Il est vrai, Catherine l'a dit, les débats auront là-dessus chose de très important.
Et je pense cette fois particulièrement.
De déterminant. Ça a toujours été
pourquoi
tout simplement, comme il ne s'est quasiment rien passé, que l'actualité internationale, et notamment celle du Proche-Orient, écrase tout, le moment politique sera la confrontation des candidats, avec un mécanisme de double vote utile.
Catherine.
Qui peut profiter à Bardella sur une partie de la droite et à Glucksmann sur une partie de la gauche.
Oui. Mais non, mais parce que Bardella, qui monte et qui est une vedette et qui refuse le débat jusqu'ici, dans le fond, on ne sait pas trop ce qu'il a dans le ventre. Lui aussi, c'est un grand communicant. On attend de lui qu'il montre, parce que je l'ai trouvé.
Qu'il montre ses cartes, comme au poker.
Et puis, oui.
Oui, sa densité.
Ben, je ne voulais pas vous ôter les mots de la bouche, Catherine.
Mais non, mais puisqu'on est d'accord, je vous les concède.
Eh bien, parfait. Alors, vous allez rester. Dans un instant, on va accueillir Louis Alliot. Ça sera juste après le rappel des titres de l'actualité. Le journal permanent, Maëlle Hassani.
Europe 1, le journal permanent.
600 éléments radicaux dans le cortège parisien aujourd'hui. Le traditionnel défilé du 1er mai marqué par des débordements dans la capitale. 13 agents des forces de l'ordre sont blessés, 45 personnes interpellées. Ailleurs en France, des incidents signalés également à Nantes, Lyon ou encore à Rennes. 121 000 manifestants sont descendus dans les rues selon les autorités, plus de 200 000 selon la CGT. Un 1er mai marqué aussi par l'éviction de Raphaël Glucksmann de la manifestation à Saint-Étienne. Des militants l'ont invectivé avant de lui jeter de la peinture. Des insultes antisionistes ont fusé. La tête de liste PS aux prochaines élections européennes accuse des militants LFI et communistes. Personne ne nous fera baisser la tête, assure-t-il. 19 départements en vigilance orange ce soir et cette nuit. Une vague d'orages fort est attendue de la Bourgogne au Hauts-de-France en passant par la région parisienne. En Normandie, ce sont les pluies qui inquiètent les prévisionnistes. Et puis dans 30 minutes, Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont débuter l'un des matchs les plus importants de leur carrière, Dortmund-PSG. En demi-finale, aller de la Ligue des Champions. 4000 supporters parisiens sont présents dans la ville allemande pour soutenir leur équipe.
Vous allez regarder.
Et je vais travailler, mais j'aurai un œil évidemment sur le match.
Vous allez regarder, je vous connais. Je vous connais, j'aimais trop le foot. Merci Maëlle Hassani, à tout à l'heure 21h pour d'autres informations.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Dans cette Europe 1 soir, nouvelle formule, vous avez l'habitude maintenant, vous avez pris l'habitude depuis lundi à 20h30, nous accueillons un invité politique. Bonsoir Louis Alliot.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maire Rassemblement National de Perpignan et je crois que vous avez du monde avec vous aujourd'hui.
Oui, on avait un beau meeting avec plusieurs milliers de personnes.
Alors, racontez-nous, pourquoi Perpignan? Pourquoi autour de vous? Pourquoi est-ce qu'on a choisi Perpignan pour lancer cette grande campagne dont on a d'ailleurs les noms complets, les 35 noms de cette liste de Jordan Bardella?
Écoutez, je crois que depuis 2020, où j'ai été élu maire de Perpignan... C'est une ville emblématique de la résistance et
de messages.
Oui, de la résistance. Oui, un certain nombre de politiques macroniennes, européennes, qui portent atteinte à nos valeurs, à nos traditions, à notre histoire, et qui sont menées, il faut bien le dire, par une technocratie européenne qui trouve des liens dans le gouvernement français, souvent et malheureusement depuis trop longtemps maintenant. Donc oui, je pense que Perpignan est une ville qui est emblématique de cette résistance-là.
Résistance, ça veut dire qu'on veut tout changer. Qu'est-ce que vous proposez à la place?
Ah ben, une autre Europe, vous savez, plutôt que l'Europe de Monet. On a toujours défendu l'Europe des nations, l'Europe des peuples et des États, et contrairement à cette Europe technocratique qui fait qu'une oligarchie aujourd'hui dirige les ficelles économique de cette superstructure européenne qui est en train petit à petit de ruiner tout ce que nous sommes et qui est en train de tenter d'effacer notre mémoire. Et de cela, aujourd'hui, je pense que les Français en sont conscients.
Mais alors, du coup, une Europe des nations avec, par exemple, un parti allemand comme l'AFD?
Ça dépend. Non, c'est pas
comment
encore
ça, ça
sûr,
hein,
vous savez.
Là...
Écoutez, on s'occupe d'abord de la liste et de l'élection française. L'AFD, en fonction de ses déclarations et de sa politique, peut-être ne fera pas partie du groupe de l'AFD. Je n'en sais rien, moi je ne suis pas député européen, je n'ai pas vocation à l'être. Mais on n'acceptera évidemment pas tout, on a notre ligne politique, on a notre agenda. Si l'AFD n'a pas les mêmes opinions que nous, il n'y a aucune raison qu'on s'allie avec eux, voilà.
Louis Alliot, est-ce que vous diriez que cette élection est vraiment une élection européenne ou c'est plutôt une élection de mi-mandat avant 2027?
C'est une élection de mi-mandat, mais... C'est aussi une élection européenne et c'est M. Macron qui a décidé de la mettre au cœur de cet agenda puisqu'il est rentré en campagne la semaine dernière avec des idées bien précises sur la fédération ou le fédéralisme qu'il veut mettre en place, y compris en isolant la force nucléaire française pour la mettre à disposition de ces super-États européens. Et ça, nous n'en voulons pas. Et les Français doivent aussi connaître les tenants et les aboutissants de la politique du gouvernement actuel.
Nous avons la liste des 35 noms. Malika Sorel qui a rejoint dernièrement le Rassemblement National, Fabrice Leggeri qui a travaillé chez Frontex. Et alors après, nous avons Mathilde Androuet, Jean-Paul Garot, Mélanie Didier, Mathieu Vallet. Ce sont des gens qu'on connaît moins bien.
Mais vous savez, sur une liste de 80 noms, nécessairement, il y a des gens que vous ne connaissez
Moi,
pas.
Moi, j'en ai 35, hein, j'en ai pas 80. Hein.
Oui, d'accord, mais la liste, elle fera 81 noms. Les 35, ce sont les potentiels éligibles. Et dans ces éligibles-là, eh bien, il y a des sortants, des députés sortants du Rassemblement national, il y a des militants de longue date du Rassemblement national, et puis il y a des personnalités extérieures qui ont rejoint le combat de Jordan Bardella et de Marine Le Pen récemment, et qui vont s'inscrire désormais dans cette stratégie-là. Et je pense que ça incarne ce que nous souhaitons être, c'est-à-dire un parti de rassemblement qui, au-delà de ses frontières naturelles, arrive à convaincre des profils qui, jusque-là, ne seraient pas venus au Rassemblement national.
Sur les sujets régaliens, sur la sécurité, sur l'immigration, vous avez une concurrente, Marion Maréchal, qui a également une liste. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liste commune ?
Ben, il faut lui poser la question à elle.
Ah ben non, en général, vous dites tout ça.
En général, on va à la liste et on essaye de rassembler avec les entités qui sont les plus représentatives.
Mais ça serait à elle de vous rejoindre et non pas l'inverse.
Exactement, parce qu'aujourd'hui, quand Jordan Bardella pèse 32 à peu près dans les sondages, Marion pèse entre 5 et 7. Et donc, c'est plutôt à elle de se poser la question, surtout quand finalement, peu ou prou, eh bien, on prétend lutter contre l'immigration, donc ça se discute, j'allais dire, mais ça se discute surtout en ce qui la concerne. Nous, on a toujours été très clairs à la présidentielle, et on continue ce combat-là qui a l'air d'avoir l'adhésion de plus en plus de Français. Donc, qu'ils se posent les bonnes questions, eux, et qu'ils ne viennent pas parasiter le message que nous portons depuis désormais plusieurs années sans avoir la...
Ils vous parasitent. Pourquoi ils vous parasitent ? Donc, ça, vous avez peur d'une dispersion des voix ?
Non, oui, parce que oui, mais de toute façon, nous, nos deux ennemis, entre guillemets, c'est l'abstention, et ça, il convient de mobiliser notre électorat pour le mois qui reste d'élection, et puis la dispersion des voix, aujourd'hui, très clairement, il ne sert à rien de voter LR ou Reconquête, parce qu'on sait très bien que ce sont des voix totalement perdues, soit ils ne feront pas 5% et ils n'auront pas de députés, soit ils feront plus de 5% et ils auront apporté leur voix au parti libéral et conservateur européen de Mme van der Leyen. Donc ça ne sert strictement à rien et c'est bien dommage.
Oui, et alors du coup, vous voulez dire que c'est même pas dommage, c'est contre-productif puisqu'ils iraient, par le calcul que vous faites, à l'encontre de leurs idées à eux.
Exactement. Voilà, moi j'ai écouté encore un député ex-RN qui disait qu'il fallait des députés Reconquête pour tenter de faire basculer la majorité de droite au Parlement. Mais la majorité de droite au Parlement actuellement, c'est Mme van der Leyen. Et moi, je ne me sens aucune affinité particulière avec cette droite libérale qui a conduit l'Europe dans la situation que l'on connaît et la France dans le système de décadence que l'on subit. Et donc, je ne souhaite pas m'allier avec Mme van der Leyen. En revanche, il y a sûrement la place pour des patriotes de tous les pays européens à l'échelle européenne qui arriveront à réorienter précisément cette politique-là. Mais on ne peut pas faire ça, si vous voulez. Il faut savoir quels sont nos amis et quels sont nos ennemis. Et manifestement, j'ai l'impression que ce soit au LR ou à Reconquête, on ne sait pas très bien faire la différence entre les amis et les ennemis.
Vous parlez avec un ton affectueux de Marion Maréchal en l'appelant d'un doux Marion. Qu'est-ce que vous diriez de Jordan Bardella ? Est-ce que vous avez la même affection pour lui ?
Ah ben oui, bien sûr.
Vous bah avez, bien moi, sûr, je, ça va mieux en 10 ans, Louis Elio.
Ben je travaille avec lui. Aujourd'hui, il incarne cette réussite et ce potentiel important pour l'avenir. Il est au soutien de la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. C'est bien dommage que toute la famille ne soit pas rassemblée. Mais on ne peut pas rassembler la famille avec des idées qui, quelquefois, sont très, ou des provocations qui sont très éloignées de la stratégie qu'on a mise en place. Donc, c'est évidemment Bardella qui porte aujourd'hui la dynamique de campagne. Et il est bien dommage que ce soit un certain nombre d'anciens du Rassemblement national qui viennent peut-être demain contrarier l'énorme succès que nous pourrions avoir.
Bardella, vous lui voyez quoi comme qualité ? À part celle qu'il est, j'allais dire, le soutien le plus grand et sans doute le plus fort à Marine Le Pen.
Ben rien, c'est un jeune homme de son temps, très intelligent, qui comprend aujourd'hui ce que souhaite la jeunesse, qui est un travailleur, qui connaît ses dossiers, qui est un très bon débatteur, et qui est un bon camarade de combat. Et moi, je lis des choses sur lui qui me paraissent totalement prétentieuses et hors de propos. Et je peux vous dire que très certainement, à l'avenir, il en étonnera plus d'un.
Ça avait été votre opposant, je crois, à la présidence du parti.
Oui, bien sûr.
Vous n'êtes pas très tendre avec lui. On ne sent pas l'empathie. Je vous connais, Louis Alliot. D'habitude, vous êtes plus... Là, Louis Alliot.
Non, pas du tout. Ça ne coince pas. J'étais avec lui toute la journée.
Ça n'empêche pas. On peut être avec son pire ennemi toute la journée, hein, vous savez.
Non, mais c'est pas moi. Non, pas du tout. C'est pas du tout mon pire ennemi. À partir du moment où il est le président de la formation politique à laquelle j'appartiens depuis 30 ans, je n'ai pas d'ennemis. Mes ennemis sont à l'extérieur du Rassemblement national. Et donc, il incarne parfaitement ce qu'on a toujours défendu. Et je trouve que le binôme Marine pour l'Élysée et Jordan aujourd'hui aux élections européennes et demain au gouvernement fonctionne parfaitement. Et moi, en tout cas, je n'ai strictement rien à redire. Donc n'essayez pas de me faire dire ce que je ne dis pas et surtout ce que je ne pense.
C'est pas mon genre. Merci Louis Alliot, merci pour votre franchise et merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir, 20h40. Place au débrief. Vous rigolez. Qu'est-ce qui vous fait rire, Olivier D'Artigol?
Vous avez essayé.
Qu'est-ce que j'ai essayé?
Vous avez essayé de le.
De le quoi?
Mais en fait, là.
J'ai rien essayé du tout. Je lui parle.
Je crois beaucoup que la ressource première, hein, maintenant, mais c'était vrai par le passé, en politique, est l'expression d'une sincérité. Et que cette sincérité puisse s'entendre, s'éprouver, se ressentir. Bon, bien sûr qu'il y a des éléments de langage. Aujourd'hui, la motivation numéro un poussée par Marine Le Pen et Jordan Bardella sur le vote du 9 juin, c'est un vote anti-Macron. C'est pour ça que les débats seront intéressants pour un peu aller les chercher sur la question européenne. Avec une présidente de la Commission, Mme von der Leyen, qui fait des appels du pied à l'italienne Meloni, très récemment. Donc,
mais elles sont amies.
Oui, donc on voit combien il y a une décomposition, recomposition. Et Louis Alliot, comme d'autres dirigeants du RN, n'aborde pas ces sujets-là.
Oui, Catherine Ney.
Ben oui, mais non, mais...
Première impression, puis après on y reviendra.
Première impression, ben écoutez, si vous parlez de sympathie, c'est un type sympathique, Louis Alliot. Il tient bien sa mairie, il a gagné quelque chose. C'est vrai qu'il a sûrement une déception de ne pas avoir le poste, il en avait envie. Bon,
et puis le poste lequel?
Eh ben celui de Bardella.
Donc la tête de liste aux européennes.
La présidence du parti, le congrès, il en avait envie. Mais moi, je crois qu'étant maire de Perpignan, et il tient bien sa ville, je veux dire, une des raisons pour lesquelles aussi Bardella était peu à Bruxelles, c'est que il faut faire le travail sur le terrain, je veux dire. Et la force du RN, par rapport au parti inexistant du président de la République, c'est qu'il y avait déjà des militants qui travaillaient sur le terrain, qui connaissaient le terrain. Et maintenant, les élus, les 81 députés, ils sont tenus à la fois par des aînés dans le groupe, et ils voient tous les jours et toutes les semaines ce qu'ils doivent faire dans leur circonscription.
Ils
ont une feuille de route. Et là, il y a un travail qui était fait dans les grands partis autrefois, au RPR, au Parti Socialiste, qui n'est absolument pas fait, par exemple,
mais
par
le
parti.
Mais au RN, oui. Donc au RN, c'est fait.
Au RN, c'est fait, et depuis longtemps, parce qu'il y a eu depuis longtemps des militants pro Jean-Marie Le Pen. Bon, donc ça, c'est... Mais c'est un travail à plein temps. Et quand on parle à Jordan, il dit qu'il n'a plus de vie privée. Oui, voilà. Il n'a plus de vie privée parce qu'il travaille tout le temps. Et qu'il doit faire ce que faisait Mitterrand, qui menait une vie de chien, en allant porter la bonne parole, aller voir les fédérations. Et qu'on est élu, et on a des places, on a des députés, et ça, leurs 81 députés, c'est grâce à ce travail.
À 9h moins le quart, une pause, si vous le voulez bien. Catherine et Olivier D'Artigol, on vous retrouve dans un instant après le rappel de l'actualité. Et une pause dans Europe 1 Soir, à tout de suite.
Bonjour, c'est Pascal Pro sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Pro et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical.
Europe 1, le journal permanent.
À 20h44, l'essentiel de l'actualité, Dortmund-PSG, c'est le choc ce soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Coup d'envoi tout à l'heure à 21h. 13 policiers, gendarmes blessés, 45 personnes interpellées à Paris. Bilan du défilé du 1er mai qui a réuni 121 000 personnes selon le ministre de l'Intérieur partout en France. Raphaël Glucksmann, lui, a été empêché de rejoindre le cortège à Saint-Étienne aujourd'hui. Personne ne nous fera baisser la tête, dit la tête de liste PS aux élections européennes. Raphaël Glucksmann qui sera notre invité lundi 6 mai à 20h30.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Avec dernière partie de ce débrief politique suivi de l'actualité politique avec Olivier Dartigolle et Catherine Ney, et on vient d'avoir effectivement on parlait de cette interview de Louis Alliot qui est Franck Ducollier qui est là, qui avance, qui on sentait quand même un peu une friction Olivier Dartigolle avec Jordan Bardella, quoi. C'était il y a du mal à accoucher quand même, hein. C'est, on a envie de dire,
vous savez, il y a des, parfois les politiques ont plus de cicatrices que de peau.
Et c'est joliment dit, ça.
Louis Alliot a une cicatrice, c'est celle du Congrès, parce que c'est un historique. Il faisait partie véritablement dans l'ADN de ce parti comme l'un des très possibles. Bon, après, il y a eu bien sûr cette irruption, cette forme de flamboyance de Bardella qui a tué le match. Il est très 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 populaire dans le RN. Après, il faut voir, parce que vous savez, il y a des échéances, il y a maintenant Marine Le Pen qui a aussi un rendez-vous judiciaire avec l'affaire des assistants au Parlement européen. Ça arrive en automne et c'est d'une toute autre dimension que le procès Bayrou sur le MoDem. Donc il y a un moment là pour elle. Et puis nous savons très bien, écoutez, Catherine Ney connaît ça par cœur, le destin des seconds, surtout quand ils sont portés par une vague de popularité, ça peut s'entrechoquer avec des positions établies pour le premier.
Eh oui, Catherine Ney, on a dit, Louis Alliot a dit tout à l'heure, Marine Le Pen président, Jordan Bardella Premier ministre. Est-ce que ça va se terminer comme ça ou ça sera...
Vous savez, les scénarios réglés d'avance, il y a toujours l'imprévisible arrive souvent. Bon, ben, je crois que Jordan Bardella maintenant se verrait bien pour l'après. Je ne sais pas quand est l'après, c'est sûr. Et Marine Le Pen, elle pense que son tour est venu.
Ben, son tour est venu, mais vous le disiez tout à l'heure, elle ne va pas au débat, elle ne va pas au front, parce qu'elle a été échaudée par les débats de l'entre-deux-tours avec Emmanuel Macron.
Un peu beaucoup.
Oui, et quant à Louis Alliot, il était un fiancé, ils se sont séparés, ça a dû aussi jouer dans le non-sacre pour le parti, quoi. C'est des histoires de famille, mais...
On voudrait dire que ce soit pas personnel, mais c'est personnel quand même.
C'est personnel, et puis surtout, la famille Le Pen, il y avait le grand-père, la nièce, les filles, le gendre,
Il en a parlé, hein, Louis Alliot, quand il parlait de Marion Maréchal, il disait, c'est dommage que toute la famille soit pareille.
Est-ce que c'était la famille RN ou la famille
c'était la famille. C'était une entreprise familiale. Jordan, où tout le monde travaillait pour le parti.
Jordan Bardella, c'est la famille aussi.
Ça n'est plus. Donc tout ça a joué. Et donc c'est un cas de figure politique unique.
Et contre lequel les autres combattent aussi, non, Olivier Dartigolle? Les autres partis en disant, regardez, c'est un camp familial, c'est les Ewing à South Fork à Dallas.
Oui, mais il faut être très politisé et suivre l'actualité de près pour établir encore le lien entre Bardella et la famille Le Pen. Pour le coup, ils ne portent pas le patronyme. Oui.
Voilà.
Et ça n'est pas rien.
Mais oui.
Parce que beaucoup théorisent l'idée, justement, que c'est la dernière étape d'une normalisation, dédiabolisation, qui passe justement sur le fait que ce n'est pas un Le Pen.
Mais voilà, c'est comme dans toutes les entreprises familiales où quand c'est le gendre qui arrive, qui ne porte plus le nom, ben c'est plus jamais pareil, quoi.
Ouais. Et c'est surtout que le RN, vous approchez ce sujet, mais c'est très intéressant, a été dans l'arc républicain, n'a plus été dans l'arc républicain au fur et à mesure de l'attitude du président de la République. C'est-à-dire que quand il y a eu le premier Saint-Denis,
exact.
Macron s'est targué de dire « j'ai appelé Bardella sur son portable, il y a eu des échanges courtois ». D'ailleurs, l'autre a été assez étonné que le président de la République l'appelle, lui demande, etc. Quand on a débriefé avec Jordan Bardella, on a eu l'occasion et il nous avait raconté que
il y avait eu des connivences.
Que la réunion s'était très bien passée. Et puis, paf, deuxième Saint-Denis, plus de Bardella, plus de coup de fil, plus rien. Et le président qui avance devant les micros, qui dit, mais attendez, le RN n'est pas dans la sphère républicaine.
Souvent, Macron varie.
Oui.
C'est une définition du macronisme. Là, il essaye de revenir. Alors, c'est vrai, dans les formats réunion Saint-Denis, le RN était presque choyé.
C'est le seul qui avait travaillé.
Emmanuel Macron a même dit qu'il avait été impressionné par
le travail.
Et ça gênait Madame Borne.
Mais là, la Macronie veut retrouver la martingale des deux dernières présidentielles et de la dernière européenne en jouant un duo face au RN. Sauf que j'ai l'impression que cette stratégie-là, aujourd'hui, elle n'a plus son efficacité passée.
Mais non, mais surtout qu'après avoir dit ce qu'il avait dit, que ce n'était pas l'arc républicain,
exactement,
le Premier ministre disait qu'il travaillait avec tout le monde dans l'hémicycle. Et il a raison. Bon. Oui. Donc tout ça, c'est...
Ça ne fonctionne plus.
Voilà.
Ne fonctionne plus. Un petit dernier mot de Valérie Ayer, puisqu'elle stagne. Est-ce qu'il y a une chance de turbo? Ou est-ce que... Parce que ça se dit aussi dans les rangs de la majorité. On se dit, après tout, si on fait ce score-là, c'est pas plus mal, ça ira bien.
Ils sont gonflés. Parce qu'ils se sont tous fait porter pâle. On se souvient que quand même, l'un d'entre eux, je vous parlais tout à l'heure des chapeaux à plumes, ou alors des grands dirigeants de la Macronie, de l'ADN de 2017, ou alors des ministres avec du poids politique, auraient pu y aller. Donc je n'aime pas cette façon de faire de la politique qui est de dire, bon, mais la petite, là, elle fait de son mieux, bon, on va l'aider, c'est quelque chose d'assez détestable.
Oui, mais c'est une question d'autorité aussi, parce que quand Nicolas Sarkozy a demandé à Rachida Dati, à Michel Barnier, qui était ministre des Affaires étrangères et qui adorait son job, et Rachida pareil, d'aller se battre...
Ils étaient davantage capés.
Oui, mais enfin, ils y sont allés.
Oui.
Tandis que Bruno Le Maire, il a dit non.
Non. Mmh.
Alors, et le président voulait séparer de lui.
Non,
et...
il a préféré sortir un livre.
Aurait voulu s'en séparer et au contraire, il élargit son portefeuille. Alors c'est vrai que de temps en temps, il y a une gestion du personnel,
un problème de ressources humaines.
De ressources humaines.
Ah, voilà, il manque un DRH.
Voilà, exactement.
Ça sera la conclusion. Merci beaucoup, Olivier D'Artigol.
Allez Paris, oui.
Comment?
Allez Paris,
ah oui.
C'est un Béarnais qui vous dit ça.
Mais bah, dis donc.
Alors que Henri IV
on dirait Jacques Villeray dans le film que vous connaissez.
Été bien reçu dans la capitale.
Merci Olivier D'Artigol et Catherine Ney pour ce moment de joie politique, si j'ose dire. Le top web et les réseaux sociaux d'Europe 1. Avec ce soir Romain Rouillard. Bonsoir Romain.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Et alors qu'est-ce qui cartonne? D'abord Instagram avec Gaspard Proust.
Oui exactement Pierre, plus de 40 000 vues sur Instagram, un carton sur X. Alors dans cet extrait, Gaspard Proust revient sur l'une des actualités marquantes de la semaine dernière, le blocage du campus de Sciences Po Paris par des étudiants pro-palestiniens. Des étudiants qui, vous vous en souvenez, Pierre, étaient accompagnés de plusieurs députés La France Insoumise.
Ah bah oui, oui.
De quoi inspirer notre cher Gaspard, écoutez.
Ça vous choque la présence de députés LFI en soutien à ce mouvement?
LFI, on leur enlève ça, qu'est-ce qu'il leur reste? LFI, c'est leur ADN, le chocage, hein, c'est une forme de taser verbal. Je veux dire, non, ce qui me choque avec eux, c'est qu'ils se pointent toujours avec une écharpe tricolore.
Mais en quoi c'est choquant?
Bah, c'est pas pour filer la métaphore de Jean-Luc, mais un député de LFI avec une écharpe tricolore, c'est à peu près aussi crédible qu'Adolf Eichmann en costume de rabbin.
Ah oui, voilà. Effectivement.
Voilà, donc forcément, vous l'imaginez, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Alors pour écouter l'intégralité de la chronique de Gaspard Proust, c'est sur Europe1.fr que ça se passe.
Également en top des réseaux, l'extrait de Philippe Val chez Pascal Pro.
Oui, tout à fait, Pierre. Alors on reste dans le même thème, hein, celui des mobilisations pro-palestiniennes dans les universités, notamment à Sciences Po. Et ce matin, au micro de Pascal Pro, l'éditorialiste Philippe Val a fait un parallèle avec Dieudonné. Alors Dieudonné, on le rappelle, humoriste controversé, condamné par passé pour des propos antisémites. Eh bien, Philippe Val a estimé que ces manifestants étaient, je cite, « les enfants de cet antisémitisme d'extrême gauche dont Dieudonné a été l'un des artisans ». Vous avez été nombreux à lire l'article consacré à cette intervention sur notre site et vous pouvez retrouver l'extrait complet sur Europe1.fr.
Et puis on termine par de la Formule 1.
Mais oui Pierre, si je vous dis Ayrton Senna, vous me dites bien sûr pilote de légende, le Phoenix, 41 victoires en Formule 1, 3 titres de champion du monde et j'en passe. Une icône du sport automobile qui nous a donc quitté il y a 30 ans jour pour jour après un terrible accident sur le Grand Prix de Saint-Marin. Alors pour en parler ce matin au micro de Pascal Pro, Julien Febro, il commente la Formule 1 sur Canal+.
Et qu'on a bien connu sur Europe 1 à une époque.
Et au micro de Pascal Pro, il revient en fait sur l'électrochoc qu'a suscité cette tragédie. Je vous propose de l'écouter.
Où les F1 étaient de manière disproportionnée, puissante, agressive dans les virages et surtout dangereuse. Revoyez ces photos ou ces images d'Ayrton Senna, dont on voit la tête et les épaules hors de la voiture. À l'époque, les pilotes étaient bien, bien moins protégés qu'aujourd'hui. Donc évidemment, il y a eu un avant et un après Imola 94, mais aujourd'hui encore, il y a des situations où les pilotes disent « Attention, ne transigeons pas sur la sécurité et on peut toujours faire mieux en matière de sécurité ».
Voilà, donc un extrait qui a très bien fonctionné sur X, un extrait que vous pouvez bien évidemment retrouver dans son intégralité sur Europe1.fr.
Merci Romain Rouillard, qu'on va retrouver donc tous les soirs dans Europe 1 Soir pour nous donner ce top web des différentes interventions sur les réseaux sociaux. Comme tous les soirs dans Europe 1 Soir également, maintenant à 9h05, une tête d'affiche d'Europe 1 nous rejoint pour nous parler de son programme. Bonsoir Sophie Davant.
Bonsoir, merci.
Ma chère Sophie, mais vous êtes ici chez vous, vous le savez. Demain, émission spéciale dans Sophie et les copains.
Oui, nous faisons une spéciale cinéma. Mmh. On va parler de... vous savez que cette émission, c'est un mélange de quiz. Nous faisons jouer les auditeurs sur des questions de culture générale. Et là, on va parler de cinéma. Donc, on va évoquer tous les grands réalisateurs, Jacques Tati. On va évoquer Léon Beaumont. James Bond, George Lucas, Steven Spielberg, et puis nous aurons comme invité Jean-Marie Poiré.
Donc, extraordinaire, c'est très éclectique. Très éclectique,
ouais. Un mélange des genres avec des copains qui font de l'humeur, de l'humour et qui aident les auditeurs. Et puis, on apprend des choses dans cette émission, on essaie de passer un bon moment avec toujours cette ligne, moi, que j'ai toujours appliquée tout au long de ma carrière, c'est parler des choses sérieusement, apprendre des choses, mais on ne se rend pas au sérieux.
Mais oui, mais vous avez raison, et vous avez une bonne bande de copains, hein, c'est-à-dire tout le monde veut savoir qui sont les copains du jour.
Voilà, qui sont là. Alors demain, il y aura encore une bonne bande de copains. Alors, j'ai pas encore les noms parce que ça change tous les jours.
Il y en a qui se font porter pâle, ils ont piscine, ils ont... Non, c'est ça.
Voilà, non, mais on essaie de former une sorte de club européen avec quand même des copains qui reviennent régulièrement, comme Jean-Luc Lemoine, comme Joe Hume, Mélanie Gomez, qu'on retrouve aussi sur Europe 1, William Lémergie qui nous a rejoint, Roland Pérez, qu'on entend aussi sur le thème d'Europe 1, et puis il y a des petits, des membres extra-Europe 1, comme Caroline Marjorie Don, que j'ai connue sur Affaires conclues, ou alors Enora Malagré.
Bon, bah, écoutez,
et Daniel Moreau aussi, voilà.
J'espère qu'un jour, je deviendrai votre copain, parce que ça a l'air alléchant.
Vous êtes notre invité quand vous le souhaitez, Pierre.
Merci, Sophie.
Si vous aimez le cinéma, passez demain, hein, on vous recevra avec plaisir.
Ah bah, écoutez, je vais peut-être passer demain, attention à vous. Merci, chère Sophie.
Bonne
Sophie
soirée
Davant.
En tout cas, et merci à vous.
Tous les jours sur Europe 1 à 16h, Sophie Davant et les copains. Moi, ma copine, c'est Marlène Duret.
Oui, c'est moi.
Marlène Duret qui va nous parler météo. Alors, une soirée agitée, hein, parce que là, on rigole pas. Soirée agitée dans le Nord. Oui. Alerte orange en cours sur combien ? 19 départements ?
19 départements, donc 14 pour les orages. Et je les regarde, les orages. Bien, ils sont en train d'arriver en région parisienne. Voilà, il y a une vague orageuse qui circule sur un axe allant de la Bourgogne vers la Picardie, l'Île-de-France et la Normandie. Donc, ils ont passé déjà le sud de la Champagne. Je pense qu'il va y avoir une évolution de la carte au fil des heures. On a bien quelques orages orages en Lorraine, mais bon, ceux-là, on les surveille pas parce qu'ils sont pas sur la trajectoire des orages les plus forts. Hein, vous savez, ceux qui peuvent donner des cumuls d'eau assez importants, des chutes de grêle. Donc voilà, on va surveiller tout ça. Et puis, à 5 autres départements, l'Eure, la Seine-Maritime, l'Orne, le Calvados et l'Eure-et-Loire qui ont été placés en alerte orange pluie inondation, des cumuls qui viennent s'ajouter aux pluies tombées ces derniers jours. Donc voilà, on imagine pourquoi ces départements sont sous surveillance. Pardon, c'est la fin de la journée. Double vigilance orange pour le Calvados qui doit aussi envisager un risque de crue sur le bassin de la Touque. Voilà, et puis la fin d'événement est prévue pour cette nuit, 3h du matin pour la totalité des 19 départements.
Demain, moins de pluie hein, dans les régions de l'Ouest.
Oui, absolument. On peut même parler d'une amélioration sur la façade atlantique.
Allez, soyons fous. Mais amélioration oui. Sur la façade atlantique, Marlène.
Qu'est-ce que ça veut dire, amélioration? Ça veut dire déjà moins de pluie. Ouais. Voilà, on aura quelques petites averses. Averses même assez rares en allant vers les pays de la Loire et la Bretagne. Et puis, on aura même le retour d'éclaircies. Ça, c'est bien. Voilà. En revanche, sur une grosse moitié est du territoire, malheureusement, le ciel va rester bien gris, bien pluvieux. C'est deux fronts là, qui ont fusionné et qui ont du mal à s'évacuer.
Mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux fronts?
Voilà. On termine par les températures.
On leur a rien
demandé. Non, on leur a rien demandé, mais bon, si on leur a demandé, si on a demandé de l'eau.
On demande les températures.
On a demandé de l'eau.
Alors, c'est les températures. Les températures.
Elles sont fluctuantes pour cette période de l'année, c'est normal. Il fera plus frais, 10 à 13 degrés demain après-midi en Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Généralement 13 à 16 ailleurs. Un petit peu plus en plaine d'Alsace, puisqu'on atteindra les 19 degrés du côté de Strasbourg. C'est vraiment la chute des maximales demain en Alsace et en Lorraine, puisqu'on perd 8 à 10 degrés par rapport à aujourd'hui.
Eh ben, je vous félicite pas, Marlène Duret. Merci pour cette météo très complète. Vous avez rendez-vous avec Elisabeth Assayac pour La France Bouge. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Pierre de Villeneuve. Ce soir dans La France Bouge, je reçois le patron du zoo de Beauval, entreprise familiale. C'est le début des ponts de mai. C'est peut-être l'occasion d'aller au zoo de Beauval.
Mais
c'est
oui.
L'un des zoos les plus visités au monde. On va tout vous raconter.